RMC, l'invité des grandes gueules.
La tenue parole avait promis de revenir voir les grandes gueules. Madame la ministre Olivia Grégoire, bonjour.
Bonjour.
Ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ça tombe bien que vous soyez là parce qu'hier on a eu une longue discussion dans les GG sur les saisonniers.
Oui.
On avait un apiculteur, on avait une productrice de fruits et légumes. Une nous disait, moi j'ai du côté de Perpignan, elle disait, moi j'ai ma solution, c'est que j'ai ma filière de roumains. Maintenant ils sont là tous les ans, ils sont installés. Et je fais avec eux. Et puis, on avait un apiculteur qui dit, moi, je commence. Et puis, au fil des jours, comme c'est compliqué, comme c'est difficile,
ils arrêtent.
Mmh. Alors, vous avez lancé un plan saisonnier. Est-ce que vous ne le lancez pas trop tard, là, votre plan saisonnier, alors, Madame la Ministre,
J'aime bien les grandes gueules et c'est pour ça que j'y reviens. J'ai pas la prétention de dire que j'en suis une, mais pas loin.
Bon, on connaît votre franc-parler.
Ce qu'il y a de vrai, je vais le mettre au milieu de la table, c'est que la politique, c'est comme dans la vie, les problèmes qui ont mis des années à se créer, je ne vais pas vous raconter des âneries, ils ne se règlent pas avec un bouton. On va en parler ensemble, le problème des saisonniers, ça fait un moment que ça monte, tellement que l'année dernière, quand j'ai fait mon premier déplacement de ministre des PME, à la Grande Motte, je m'en souviens encore, la première chose dont m'ont parlé les restaurateurs, ce n'est pas les factures d'électricité pour lesquelles j'étais venu parler, qui a aussi été un problème, c'est le problème de main-d'œuvre. On a des restaurateurs notamment, des acteurs du tourisme en général, qui manque de 300 000 bras et mains pour aujourd'hui faire la saison. Ce problème, ça fait des années qu'il se prépare. Donc, il y a aujourd'hui des acteurs économiques, et notamment les restaurateurs, les représentants de l'UMI, de GNI, GNR, qui représentent les restaurateurs, les hôteliers, déjà qui ont commencé par augmenter sérieusement les salaires, il faut le rappeler. 16% d'augmentation depuis un an dans les salaires de la restauration, notamment. Maintenant, on a plusieurs problèmes avec les saisonniers. Le premier problème, c'est qu'il faut en trouver. Et pour en trouver, on a beaucoup de restaurateurs, mais pas que. Vous avez parlé d'apiculteurs, on a des agriculteurs qui sont démunis. Vous avez dans ce pays un truc qui fonctionne, qui s'appelle des maisons des saisonniers. Il y en a 57 dans le pays. Il y en a un dans les Landes, il y en a un où j'étais il y a deux jours, il y en a un dans le sud-ouest, dans le sud-est. On va les multiplier par deux. Déjà faire en sorte qu'il y ait un endroit dans tous les territoires où les restaurateurs, les agriculteurs, tous ceux qui cherchent des bras et des mains puissent aller se présenter en disant on cherche des saisonniers.
D'accord, c'est pas le cas dans toute la région. Ça concentrera les offres, quoi.
Ça concentre toutes les offres et ça va concentrer aussi les propositions de logement. Au-delà de ça, on va continuer à faire connaître ces métiers parce qu'on a, c'est pas le problème que de cet été, c'est un problème de longue haleine. Donc, on a lancé il y a quelques mois la semaine des métiers du tourisme. 1500 événements qui ont été créés dans toute la France pour expliquer à nos plus jeunes que sont ces métiers, combien on gagne et comment on a aussi certains avantages. Et on va aussi continuer à partager les bonnes pratiques. On va y revenir. C'est pas un élément de langage, les bonnes pratiques. C'est pas moi, depuis mon bureau à Bercy, qui a toujours les meilleures idées, ni Olivier Dussopt. C'est les restaurateurs, c'est les gestionnaires de camping, c'est les maires qui font beaucoup de choses. On a fait remonter toutes les idées du territoire pour faire ce plan. On a pris des initiatives qui se font en Bretagne, par exemple.
Exemple.
Qui se font à La Baule. Exemple. Des campings municipaux où les gens ne vont plus. Qui sont en état de délabrement. Les campings 1 et 2 étoiles où il y a de moins en moins de gens. Vous avez des maires qui ont décidé soit de les rénover, soit d'y mettre ce qu'on appelle des petites maisons en bois pour permettre de loger 100, 200, 300 saisonniers. J'étais à Osgore, j'étais à Cabreton, j'étais à Seignos il y a quelques jours. 150 saisonniers sont logés sur un camping municipal qui était abandonné.
Tarif préférentiel ?
Tarif 320 euros le mois. Et pour partie, pris en charge par l'employeur.
Ouais, parce que François Ruffin demande le camping gratuit pour les étudiants saisonniers.
Mais je lui ai répondu hier soir, vous savez, moi je crois que sur les vrais problèmes, il ne faut pas de sectarisme. Son idée, elle n'est pas idiote, elle n'est même pas idiote qu'elle est dans notre plan. On mobilise les campings, mais par contre ce que dit François Ruffin, ça se passe dans les rêves, ça ne se passe pas dans la vraie vie. Un camping qui donne gratuitement des logements aux saisonniers, comment il fait le camping pour vivre ? Qu'est-ce qu'on fait des touristes qui habituellement allaient dans le camping et là ça va être pris par les saisonniers? Ils vont râler les touristes, ils vont râler les professionnels de l'hôtellerie de plein air. Donc il faut qu'ils soient un peu rémunérés. Est-ce qu'il faut que l'État aide? Oui, on va mettre de l'argent pour aider à rémunérer les locations de saisonniers. On va aussi mettre plus de 10 millions d'euros pour mieux former les saisonniers parce que c'est un sujet. Le plan, il tient en trois piliers. Les trouver, vous aider à les trouver. Faire en sorte qu'on arrive à les former, je vais y revenir une minute. Et aussi les loger. Pour les loger, il faut être très concret. Pour cet été, on a des sujets. On a libéré 1500 places, par exemple, dans des universités, dans des lycées, dans des internats qui sont inoccupés durant l'été, pour déjà pallier le problème dès cet été. Objectif, fin 2024, début 2025, 6000 places disponibles. Dès le mois prochain, vous aurez une plateforme en ligne, Internet, où l'ensemble des offres de logement du parc public sera présenté pour que les saisonniers puissent aussi se loger.
D'accord, donc il y aura une espèce de carte de France pour le saisonnier en se disant si je veux aller travailler dans les Landes, ah tiens, bah, j'ai des offres de logement dans les Landes.
Il y a une chose qui est super intéressante, et je vous fais vraiment une remontée de terrain d'échanges très concrets. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que pendant des décennies, on a considéré, et j'en fais partie, il y avait les saisonniers l'été, puis ils allaient faire la saison d'hiver, souvent dans les montagnes. C'est en train de bouger, ça. On a aujourd'hui, par exemple, dans le Sud-Ouest, une initiative qui est très intéressante entre Bonduelle, que vous connaissez, et Labeyrie, que vous connaissez aussi.
Bonduelle, et le foie gras, comme disait l'autre.
Et le saumon fumé, et une très belle boîte française qui est le premier employeur de la région, et qui exporte dans 48 pays, donc c'est un fleuron. Bonduelle, ils ont besoin de bras et de mains au printemps pour ramasser des asperges, pour ramasser du maïs dans les Landes. Au mois de juillet, ça s'arrête, la récolte. Pile, jusqu'à la rentrée, ils cherchent des boulots, et en fait, la saison de Labeyrie, elle commence en septembre. Et donc, ils ont créé un groupement d'employeurs pour ensemble proposer ce qu'on appelle des contrats complémentaires entre Bonduelle et Labeyrie. Plutôt que de faire 3 mois, puis attendre 2 mois sans revenu, puis 3 mois, ils font des contrats de 7-8 mois. Il faut que l'État permette ces contrats dits complémentaires. C'est ce qu'on permet aujourd'hui avec une expérimentation qu'on va continuer à développer dans le pays. Si ça fonctionne bien, 2024, on mettra en place véritablement une sorte de contrat complémentaire intersaison pour permettre D'accord. à ces saisonniers de travailler plus.
Hier, on entendait des saisonniers regretter qu'ils...
Pas facile de raconter 15 mesures en 2 minutes.
Non, mais c'est intéressant parce qu'hier, on entendait une saisonnière itinérante qui dit, moi, je tourne partout dans toute la France, tout
avec
le temps, et avec mon camion, elle est dans son camion, mais c'est son mode de vie après, c'est ce qu'elle a choisi, et elle dit, je vais aller encore, je vais aller dans le Beaujolais, je vais aller dans le Sud-Ouest, etc., et elle fait toute l'année. Puis on avait un autre qui disait, moi je regrette aussi le temps des contrats saisonniers. Est-ce qu'il faut remettre en place les contrats saisonniers ou pas ?
Exactement le type de sujet sur lequel on pense qu'il faut...
Qui permettait une couverture aussi,
c'est l'idée du contrat, c'est l'idée du contrat complémentaire. Pendant ce qu'on appelle l'intersaison.
Le politique a l'art de faire, défaire et refaire, quoi.
Oui, vous savez, moi je suis là.
C'est vous, là.
Mais quand on fait de la politique, faut prendre aussi les trucs d'avant. Oui, ça fait partie des défauts du politique. Moi, j'ai à cœur surtout d'apporter des réponses concrètes sur un problème qui a mis quand même. Et je voudrais le dire, ça a mis des années à se créer ce problème, et ce problème, il a plein d'impacts et il a plein de causes. Aujourd'hui, la première cause, c'est quand même le logement. La problématique majeure, c'est comment on loge nos saisonniers. Vous voyez, il y a un truc qui fonctionne. Exemple, La Baule. Le maire de La Baule l'a fait.
Franck Louvrier.
Vous avez des particuliers qui ont une chambre ou qui ont une partie de leur maison ou de leur appartement qui pourraient louer. Plutôt que d'aller sur certaines plateformes, ils peuvent aussi, à La Baule, et on est en train d'encourager pour que ça se fasse dans toute la France, en maintenant un dispositif fiscal, je vais y revenir, de louer à un saisonnier plutôt que de la mettre sur une plateforme. Eh bien, il y a une exonération d'impôt sur le revenu sur les montants de l'allocation. Ça, on le poursuit, au moins jusqu'à l'été 2024, pour permettre aux particuliers aussi de continuer à louer en ayant un avantage fiscal. Mais tout ça va mettre un peu de temps, c'est des mesures importantes, et je termine, c'est pas des mesures que les ministres ont écrites, Olivier Dussopt et moi-même, dans un bureau. C'est vraiment, ça sert à ça, les acteurs du tourisme, ça vient des acteurs du tourisme.
Il y a pas l'histoire du logement, pardon Mehdi, mais il y a le Covid qui est passé par là aussi.
Aussi, bien sûr.
Et avant, tous ces métiers de saisonniers qui pouvaient être un peu rudes, un peu durs aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont plus envie de les faire.
Les gens n'en veulent plus, madame la ministre. Les gens n'en veulent plus, je vous le dis en toute honnêteté, les gens n'en veulent plus.
Alors
du tout. Il y a des personnes où le Covid a fait changer justement le...
Ça m'a pas échappé.
Voilà, a fait complètement changer leur mentalité, où maintenant, ramasser des fraises ou des pommes de terre ou des choses comme ça, ils ne veulent plus le faire et ils se disent c'est pas pour moi. Et il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire. Il y a deux questions dans l'une, madame la ministre, c'est est-ce que je voudrais, on est dans les grandes gueules, vous êtes une grande gueule, moi je le dis parce que je vous ai entendu souvent
grande, je sais pas,
si parce que par rapport à certains de vos collègues, c'est sûr comment vous dites les choses. Est-ce que toute cette on va dire précipitation à légiférer rapidement n'est pas due à l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024. Honnêtement, madame la ministre.
Non.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis.
Circonstances.
Non,
je pense qu'il y a 2-3-4 mois où on s'est dit, je crois qu'on n'a pas assez de personnel, je crois qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre, je pense qu'on n'a pas assez de. Parce que quand on me dit que des étudiants reçoivent pendant leur année scolaire avec une sorte de, entre guillemets, acte d'expulsion temporaire pour la période scolaire pour l'année prochaine, je me dis que un peu que le gouvernement est un peu au pied du mur. Honnêtement, soyez honnête et franche comme vous l'êtes d'habitude.
J'adore cette phrase d'Oscar Wilde, il disait, je suis moi-même, les autres sont déjà pris, j'aurai 45 ans en septembre, je vais pas me changer maintenant. Donc honnêtement, on se l'évite, on gagnera du temps, je sais faire que ça. Donc honnêtement, vous dites, les gens n'en veulent plus. Bon, honnêtement, il y a un sujet. Depuis le Covid, il y a un sujet. Bon, honnêtement, est-ce que moi, ministre, j'ai envie de dire, tous les gens qui allaient ramasser les asperges, du maïs ou faire les vendanges ne veulent plus travailler. Non, moi je me bats contre les caricatures et je me bats contre les généralités. Il y a aussi des raisons pour lesquelles un certain nombre de gens ne voulaient plus aller ramasser ou aller servir. Il faut se dire les choses, on est chez les grandes gueules. Ouais. Ok, il y a 5 ans encore, il y a 3 ans encore, tu gagnais difficilement ta vie dans un certain nombre de secteurs, tu avais des conditions de travail qui étaient quand même hard, tu avais des périodes de pause pendant 6, 7 heures, 8 heures, tu ne sais pas quoi faire. C'est vrai que le Covid est passé par là, mais heureusement, l'augmentation des salaires est aussi passée par là et les acteurs de la profession en ont pris conscience.
Alors attendez, l'augmentation des salaires, mais vous mettez aussi l'augmentation de la vie dans l'autre sens.
Ouais, mais pardon. Allez,
excusez-moi, quand vous êtes à 6-7% d'inflation et que vous avez 8, 9, 10% d'augmentation de salaire.
Mais vous avez augmenté 16% les salaires dans la restauration. L'inflation, elle est de 6%. Oui. Monsieur, on peut le prendre dans tous les sens. Même les acteurs le disent, Thierry Marx, tous les acteurs qui représentent ce secteur. Il y avait besoin d'augmenter les salaires. Vous l'avez fait en tant que branche de façon hyper responsable et je le répète partout. Mais il fallait le faire. Il y a des causes à tout ça. Bon, je voudrais répondre à votre question sur les JO et la précipitation. Je ne crois pas du tout à la précipitation. Moi, la seule et unique raison pour laquelle j'ai pris le sujet à bras-le-corps des saisonniers depuis 9 mois, c'est l'intérêt des PME. Je vous le redis. Et d'ailleurs, les sondages le démontrent. Le principal risque, on dit structurel, grave, pour nos PME aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Il y a des problèmes conjoncturels, il y a l'inflation, il y a les relations commerciales, il y a tout ça. Le nombre de restaurateurs que j'ai vus, j'en ai un en tête à Saint-Laurent-du-Var, je peux même vous citer le resto. Un jeune homme génial qui se bat, qui ouvre pendant le Covid, un super resto.
Je l'ai fait.
Le jeudi soir, il ferme. Il perd 10%, 15%, 20% de chiffre d'affaires parce qu'il n'a pas de serveur. Quand je lui parle facture d'énergie ou PGE, il me dit « oui, ça c'est des irritants, ça nous enquiquine ». Il me dit « ce qui me fait peur, madame la ministre ». C'est que je n'arrive pas à staffer, je n'arrive pas à trouver du monde. Donc, il y a cette réalité. Il y a 300 000 personnes dans le tourisme qui manquent. Et encore, je ne vous parle pas des services à la personne. C'est 500 000 personnes pour s'occuper de nos personnes. La réalité, c'est que il faut améliorer. Et vous l'avez fait en partie. Il faut continuer. Chapeau. Vous avez beaucoup distribué de primes. Par exemple, on ne le dit pas assez. C'est les TPE.
La
prime partagée à valeur. C'est eux. C'est les petits restaurateurs, les petites TPE. Ouais, vous l'appelez comme vous voulez. Si tant est que ça fasse un peu de sous au bout du mois,
tant
c'est
mieux,
tout ce
pas chargé.
Elle n'est pas chargée. On la continue. Et en plus, j'ai fait en sorte qu'on puisse la fractionner. Vous pouvez la prendre en plusieurs fois.
Plusieurs fois, oui. Je veux juste dire. Chaque mois, on.
Exactement.
J'ai mon apiculteur au téléphone, là, justement.
Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne peut pas d'un côté nous dire, faut travailler avec les gens. Moi, ça fait 9 mois que je travaille avec les acteurs du tourisme, avec les maires. J'ai pas la science infuse. Donc ce plan, c'est le fruit de 9 mois de boulot avec les communes, avec les maires, avec les acteurs du tourisme. Ce plan, il y a aucune précipitation. Je légifère pas. Vous voyez le dispositif fiscal qu'on prolonge. C'est pas une loi. C'est du bon sens. C'est du réglementaire. Il y a beaucoup de mesures qui passent pas par la loi. Il y a beaucoup de mesures qui vont se développer dans les mois qui viennent. Il y a pas de précipitation. Vis-à-vis des JO, sur lesquels je travaille aussi, il y a une réalité. Un patron sur deux de PME a peur d'une chose en premier, la pénurie de main-d'œuvre. Ouais, c'est le sujet.
Eh ben on va, vous restez...
Et il faudra prendre toutes les mesures, et j'en reviendrai en parler, pour aussi casser toutes les âneries qu'on peut entendre par rapport au projet de loi immigration. Si on ne trouve pas de bras, oui, il va falloir, pendant quelques années, accepter de régulariser des gens, les couvrir pour que vous puissiez bosser. Ouais, et moi là-dessus, je ne changerai pas.
C'était ma question.
Attendez, mais non, mais on pourra la compléter. Non,
parce qu'il faut rire les gens qui mangent.
C'est un vrai point de friction aujourd'hui dans la société. C'est un point de friction politique.
Vous savez, j'ai passé 16 heures avec Olivier Dussopt. Je connais bien Gérald Darmanin. On travaille ensemble. Il n'y a pas l'ombre d'une friction entre nous pour porter cette partie du texte. Est-ce que ce sera dans la loi ?
Je dis simplement avec une autre partie avec les LR qui pourraient vous aider à voter.
Je vais vous dire, c'est de la tambouille de politique. Ouais. Ça, c'est de la tambouille. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est de la tambouille. Mmh. Moi, ce que je vois, 56% des petits patrons ont peur d'un truc. Ils ne trouvent ni main ni bras. Donc, c'est simple. Si dans 6 mois, 8 mois, on ne leur permet pas d'avoir des salariés pour un temps saisonnier ou pour un peu plus longtemps, avec un visa spécifique pour les métiers sous tension, nous aurons des boîtes qui vont fermer.
Point. Donc, il faudra faire.
Donc, je veux bien la tambouille, les considérations politiques. La réalité, c'est que si on aime nos PME, il faut leur permettre d'avoir
des salariés. Vous restez avec nous, Olivia Grégoire, Madame la Ministre, parce qu'on a Alexandre, notre apiculteur, qui était avec nous hier, qui cherche des bras, qui veut justement.
Je pense qu'il est d'accord sur le visa métier sous tension.
Avec vous. Et puis, Philippe, informaticien en Haute-Savoie, qui voulait donner l'exemple de sa fille de 20 ans, qui a son BAFA. Parler des contrats qu'elle va passer. Voilà, on est dans le concret, Olivier Grégoire, la ministre du Tourisme, des PME. On parle des saisonniers avec elle. Vous avez déjà abordé la question de l'immigration et des secteurs sous tension. Ce sera la question de Marianne Soubré à préciser tout de suite avec les grandes gueules. Puis pensez, tu parleras, t'inquiète pas.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
C'est la ministre des TPE, PME, la ministre du Tourisme aussi qui est avec nous, Olivia Grégoire, qui avait promis de revenir au moment où elle allait se poser la question des saisonniers, promesse tenue. Elle est là, elle va en parler justement avec un employeur, un apiculteur qui était avec nous hier sur cette question, Alexandre. Bonjour Alexandre.
Et bonjour Alain.
Bonjour, Madame la ministre vous écoute Alexandre, allez-y.
Merci, bonjour Madame la Ministre. Alors nous, on est installés dans le Vexin, dans le département des Yvelines. On a une spécificité, c'est qu'on est en région Île-de-France. Alors quand on sait qu'un pot de miel sur quatre en France est produit en France, le reste est importé. Donc on a créé notre exploitation il y a 8 ans. On a dimensionné le parc, le nombre de ruches, pour justement avoir un saisonnier qui pourrait déboucher sur un CDI. Et aujourd'hui, quand on entend que... trop de temps en région parisienne pour aller travailler chez nous, c'est compliqué. Et d'autant que vous parlez il y a un instant de la maison des saisonniers, mais en réalité, il y en aura peut-être pas.
Attention, pas trop bouger, Alexandre, sinon on perd la liaison.
Ah, pardon, ça sent que près de 50% de.
Ah, Alexandre, faites un effort, calez-vous bien, sinon on n'entendra pas votre question.
Ah,
vous êtes calé au mauvais endroit, alors. Un pas à droite.
Oui, c'est
un
bon.
Pas à gauche.
Oui, c'était le pas à droite, ça change tout. Oui,
non, faire un pas à droite. Non, c'est le pas à gauche qu'il faut faire.
Alors, Alexandre, question directe à Olivia Grégoire, allez-y.
Oui, alors du coup, qu'allez-vous faire pour... est-ce que vous allez faire une maison des saisonniers pour les agriculteurs en région Île-de-France?
Alors, bonjour, monsieur Alain, pardon de
Alexandre.
Vous appeler... Ah bon, bah, autant pour moi, j'ai écrit Alain. Non, excusez-moi, Alain, ça m'a pas échappé.
C'est Alexandre.
Bonjour, monsieur, comme ça, je ferai pas d'erreur. 1, 2, 3, 1... Maison des saisonniers, elles sont ouvertes, il y en a 57 dans le pays, à tous les acteurs économiques qui ont besoin de saisonniers. Donc, il faut regarder, et je suggère, comme je le fais assez souvent quand je viens ici, peut-être d'échanger après ce plateau, pour voir dans le Vexin, je ne sais pas là s'il y a une maison des saisonniers dans le Vexin, ou dans l'Oise, ou dans le Val-de-Marne, il faut qu'on regarde. En tout cas, on doit pouvoir en trouver une pour pouvoir faire passer votre besoin, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez, et je ne sais pas si vous l'avez fait, monsieur, possiblement, parce que ça fait quand même depuis Jean Castex 2021 qu'on a mis en place ça. Est-ce que vous avez contacté Pôle emploi sur ce sujet?
Alors, on demande justement d'avoir des compétences apicoles. Donc, ce n'est pas des compétences agricoles, c'est encore plus technique aujourd'hui dans notre travail. Donc, moi, j'approche directement les centres de formation de la région parisienne et des régions avoisinantes.
CFA,
et aujourd'hui, je n'ai pas de réponse.
Ok, alors ça c'est pareil, c'est pas normal. Vous avez contacté le CFA, c'est ça, centre de formation?
Alors les CFA, les CFPPA Laval, Brie-Comte-Robert ou même Arras, leur donnent des besoins. Alors,
bon, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de réponse, si je puis me permettre, monsieur. Donc,
j'ai pas de retour en fait. Ils me donnent une réponse, mais ils diffusent, mais j'ai pas de retour concret quant à un besoin en personnel.
Bon,
on va regarder ça.
Dernière question qui me paraît importante, parce que c'est des métiers précis. Le sujet, c'est aussi le sujet de la formation. Vous pouvez avoir des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont jamais ramassé du miel dans des ruches. Exemple, moi, par exemple.
Oui.
C'est pas si facile comme geste, si je puis me permettre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ou mis en place, peut-être avec d'autres apiculteurs, des formations très courtes? C'est un vrai sujet. On a des formations souvent à 100, 120 heures. C'est souvent assez long pour permettre aux gens de travailler dès le mois de juillet, dès le mois d'août. Est-ce que vous avez préparé, anticipé, réfléchi avec des collègues à la mise en place d'une formation de 35, 50 heures pour éventuellement avoir des gens qui ne l'ont jamais fait mais qui, passant 3-4 jours chez vous, 5 jours de formation, pourraient être formés pour le faire cet été?
Alors, faut savoir que depuis 2017, on accueille 2 stagiaires tous les ans qui font entre 120 et 240 heures chez nous. Chacun repart avec un projet d'installation, pas spécialement dans la région parisienne non plus, mais ailleurs en France. Et après, en tant que vice-président de l'association de développement de l'apiculture en Île-de-France, donc c'est une association de professionnels pour des professionnels, on peut évoquer l'idée de créer un pool de gens qui peuvent se faire former, qui peuvent être aussi itinérants entre exploitations franciliennes.
Ok, vous allez regarder le dossier?
Je vais regarder le dossier. Je ne peux que vous encourager et vous dire comment on va vous contacter, notamment pour améliorer la réponse du centre de formation. Je peux que vous encourager sur les formations au niveau des professionnels, les formations courtes. Encore une fois, je vais vous dire un truc. C'est un ministre, ça peut décider, mais un ministre, c'est jamais aussi précis et aussi efficace que ceux qui pratiquent le métier.
Terrain, bien sûr.
Et donc, c'est pour ça que le plan saisonnier et les mesures qu'on présente, encore une fois, j'en ai pas eu le monopole de l'idée. C'est les gens qui sont sur le terrain, qui bossent, qui ont des restaurants, qui ont des campings, qui ont des hôtels, les maires, qui ont déjà mis en place des solutions, qui sont souvent les plus efficaces sur le sujet. Donc, si vous l'acceptez, vous êtes vice-président, je crois, donc, de l'association des API, c'est ça ?
Voilà, en Ile-de-France, tout à fait.
Bah, on peut organiser un échange, là, on est vendredi, mais peut-être la semaine prochaine, avec des gens de Bercy pour essayer de vous soutenir dans cette formation.
Allez, ça marche.
Ça fait partie des choses qu'on doit soutenir.
Merci,
la formation
Alexandre, d'avoir été avec nous au 32-16.
Merci à vous.
Philippe, bonjour.
Oui, bonjour, madame la ministre. Bonjour, les grandes gueules.
Alors, allez-y, Philippe, votre exemple, vous êtes en Haute-Savoie, vous.
Oui, voilà. Alors, on est dans une région où c'est très tendu, point de vue saisonnier. J'ai ma fille qui cherche un travail saisonnier dans l'animation. Donc là, dernièrement, elle a des retours. On lui propose comme contrat un CE. Alors, j'ai découvert ce contrat que je ne connaissais pas. C'est un contrat d'engagement éducatif. Et c'est payé 40 euros brut par jour. Donc, quand j'ai vu la somme, j'étais assez étonné. Parce que, surtout dans une région comme la nôtre, qui est très tendue point de vue saisonnier, moi, je trouve qu'à ce tarif-là, ça n'encourage pas les jeunes à aller travailler vers le saisonnier.
Ah, ça, c'est sûr.
Je voulais savoir... Déjà, ce contrat-là, je commence à se dire que quelque chose comme ça puisse exister, si peu payé. Sachant que, par exemple, ma fille fait du babysitting régulièrement, c'est entre 10 et 12 euros de l'heure. Quoi.
Ah oui. J'en paye beaucoup, des babysitters, et je vous cache pas que je l'ai payé un peu plus, en plus. Et que c'est dur à trouver aussi.
Alors, 40 euros de l'heure, là, ce contrat.
Ce qui m'étonne.
Oui, 40 par jour, brut.
J'ai bien compris. Alors, je mets pas une casquette que j'ai pas, parce que je suis pas la ministre du Travail, mais je me dois une réponse. Vous me parlez de CEE. C'est pas le. Parce que je me souviens du contrat engagement jeune qui a été développé par la première ministre, qui doit permettre notamment aux plus jeunes via les missions locales. Je pense qu'elle a eu un contact avec la mission locale, votre fille.
Non, pas du tout. Non.
Ça, c'est pas normal.
Un centre de vacances qui lui propose un CEE.
Oh, mais il n'y a pas eu d'intermédiaire avec la mission locale.
Non, pas du tout. Bon. Là, oui, un CV directement, c'est à côté de chez moi. Donc,
On va regarder ça.
Il faut. La bonne nouvelle, monsieur, si je puis me permettre, d'abord, c'est que votre fille, elle a une formation, chapeau. La deuxième bonne nouvelle, on le prouve aujourd'hui, c'est qu'on cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents pour les centres culturels, les centres éducatifs, pour les restaurants, les hôtels. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle trouve. Un travail de saisonnier. Et après, je vous dirais qu'il faut faire jouer la concurrence dans le business comme dans les contrats. Et donc, je pense que la meilleure solution, Philippe, si je peux vous appeler Philippe, peut-être d'abord qu'elle se précipite pas à signer ce contrat-là. Deuxièmement, je pense qu'il faut prendre contact avec la mission locale, monsieur. Et si vous l'acceptez, je me permettrai de demander à l'équipe de programmation de me passer vos coordonnées, parce qu'il faut contacter la mission locale pour plutôt l'orienter vers un contrat d'engagement jeune qui me semble être plus adapté et accessoirement, possiblement, mieux rémunéré.
Merci Philippe de cette interpellation, madame la ministre, madame Soubré.
Oui, une question assez rapide, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, madame la ministre, mais étant spécialisée en droit des étrangers, je sais à quel point les secteurs où il y a un manque de main-d'œuvre, c'est là où il y a des étrangers qui travaillent de façon irrégulière puisqu'ils sont clandestins. Donc vous avez le bâtiment, la restauration, les nourrices également, et également les entreprises de nettoyage. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour... Parce qu'on a d'un côté un manque de main-d'œuvre et de l'autre des gens qui travaillent et qui devraient être régularisés et qui pourraient l'être. Donc, qu'est-ce qui est prévu ?
Déjà, je voudrais dire une chose qui peut paraître impertinent, mais je vais quand même le dire. Il y a quand même une chose que je ne peux pas ne pas dire, c'est que c'est quand même une assez bonne nouvelle pour notre pays, parce que à l'âge que j'ai, moi, j'ai quand même vécu 25 ans où on m'a dit on trouve pas de boulot, et beaucoup autour de moi et des gens diplômés. Et maintenant, on a un sujet qui est que on trouve plus de salariés. Franchement, je préfère la saison 2 à la saison 1.
Voilà. C'est vrai.
Et c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, je préfère ce problème-là, quitte à choisir. Vous avez majoritairement raison, mais pas que. J'ai présenté un plan métier d'art en début de semaine. On manque aussi cruellement de main-d'œuvre dans des métiers de la main. Très précis, des tailleurs de pierre, des plumassiers, et pas spécifiquement dans des secteurs où là c'est plutôt de la main-d'œuvre d'origine étrangère, c'était de la main-d'œuvre française, et ce sont des métiers qui sont en perdition. Donc il y a majoritairement les métiers que vous avez cités, que je connais bien, le service à la personne, c'est 500 000 personnes. Donc voilà. Mais vous avez aussi des métiers de niche où on n'a pas de main-d'œuvre étrangère et où on n'a plus de main-d'œuvre française.
Ce qui est dommage.
Donc il y a plus, la première chose à faire, et qui n'est pas facile à faire, il faut quand même. Moi, je connais bien Olivier Dussopt et franchement, je salue son boulot et son courage, parce que la réforme de l'assurance chômage, faut voir ce qu'on s'est pris, Mais il n'y a pas 150 façons, à un moment, de remettre des chômeurs de longue durée en formation, des personnes très éloignées de l'emploi, au boulot. Et Olivier Dussopt l'a fait. Ce qu'on a fait, ça a été difficile, cette réforme. Elle a quand même ramené déjà plus de 100 000 chômeurs de longue durée vers l'emploi. La deuxième chose qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai essayé de dire rapidement tout à l'heure, c'est arrêter de se cacher derrière son petit doigt et derrière des postures morales. On ne va pas, si on prend juste les nounous, les services à la personne, ceux qui accompagnent les personnes les plus âgées, les personnes dépendantes, on ne forme pas 500 000 personnels, encore une fois, en appuyant sur un bouton ou en 6 mois. Ou alors on va avoir des drames, il faut se dire la vérité. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait véritablement aussi une politique dans les 2-3 ans qui viennent, et ce sera partie prenante du projet de loi immigration, ou de façon très opérationnelle, le temps qu'on forme de longue durée beaucoup plus de salariés,
de régulariser,
on pallie à ces pénuries de
main-d'œuvre.
Vous savez, je fais gaffe aux mots. C'est un visa métier sous tension, qui est borné dans le temps. Parce que vous allez voir l'extrême droite...
Sous combien de temps?
Laissons peut-être le débat parlementaire se faire, ou les échanges se faire.
Mais vous voulez borner sur combien de temps?
Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là après?
Alors, attendez... Régulariser, quand on dit régulariser, vous
c'est
réveillez les fantasmes d'une bonne partie
de le grand remplacement.
Même si elle est temporaire, ça s'appelle une régularisation.
C'est ce que je cherche à éviter. Oui, mais c'est pas là. On ouvre la porte et puis on verra quand on la ferme. C'est pas ça.
Après, régularisation, ça a une signification. Même si c'est temporaire, c'est une régularisation.
C'est un visa, un temps donné, où on est protégé pour pouvoir travailler. On se le disait il y a 2 minutes. Vous savez, un monsieur qui est sur un chantier qui n'a pas de papier et qui travaille comme un dingue, si le chantier d'à côté lui propose un peu plus de sous, il doit demander, au moment où on se parle, la permission à son employeur de pouvoir changer de chantier. Est-ce que c'est satisfaisant, ça, aujourd'hui, en 2023, dans notre pays, de laisser aussi des travailleurs étrangers qui travaillent non régularisés, complètement sous la coupe de certains employeurs? Non.
Parce qu'ils sont exploités, de toute façon. La vérité, c'est que les employeurs les exploitent.
Morales, il faut avoir des lunettes concrètes. Il y a une crise du logement,
besoin,
une crise du bâtiment.
On pallie ce besoin, tout simplement.
Et ben on pallie avec ceux qui sont là et qui bossent.
Alors,
qui
vous pouvez des rester impôts, 10 minutes, qui des impôts, 10 minutes avec nous encore.
Parce que c'est vous, je vais faire un effort.
Super, parce que on a la question de Bruno Poncé. On a une question.
J'ai déjà la question de Bruno Poncé. Est-ce que les SNCF, ils vont faire grève entre
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Allez, la discussion continue dans les GG, dans les grandes gueules. Bruno Poncé avec madame la ministre des PME et du tourisme, Olivia Grégoire. Vas-y, go, on parle des saisonniers ou d'autres choses, vas-y.
J'entends madame Grégoire, en plus vous avez l'air dynamique sur votre sujet, mais vous pourrez jamais contraindre quelqu'un qui loue avec via Airbnb son appartement, genre à la boule, comme vous disiez tout à l'heure, qui va peut-être prendre 500 balles par semaine, si c'est pas plus, peut-être 1000, et lui dire, pour faire venir des saisonniers, on va vous défiscaliser tout, mais le mettre à 400 balles par mois. Ils le feront pas. Et aujourd'hui, on voit, et c'est pareil avec les GAFA, on voit bien qu'aujourd'hui, Airbnb, c'est devenu, ils ont fait le cheval de Troie en France, et qu'en fin de compte, ils sont en train de polluer réellement un petit peu tout ce qui est logement. Et Ruffin vous l'a dit, mais il avait raison sur ce sujet, il avait dit, à un moment donné, ça va être compliqué de contraindre. Puis après, moi, il y a un deuxième sujet où, moi, je vous entends. Moi, j'ai été saisonnier à une époque où je ramassais les pommes et tout, et on gagnait bien notre vie à le faire. On bossait fort, mais on gagnait bien notre vie. Puis à un moment donné, quand les Portugais, les Espagnols sont rentrés dans l'Europe, quand les Roumains, les Polonais sont rentrés, les patrons préfèrent aller chercher des gens qui payaient moins, qui faisaient vivre dans des caravanes à côté du verger, et ils les faisaient venir. Et après, ils se disaient, et après, aujourd'hui, c'est même là, se plaindre, ouais, j'arrive à avoir personne et tout, parce que les Polonais et les Roumains, ils ont commencé à réclamer les mêmes salaires que nous, donc à un moment donné, ça ne servait plus à rien qu'ils les fassent venir. Puis après, ils disent, personne ne veut venir. Il y a aussi ce truc-là. Je pense que ça va être compliqué pour vous de vous battre contre le capitalisme. Moi, déjà, dans le gouvernement, vous êtes, ça va être compliqué, mais en plus, là, aujourd'hui, vous êtes.
Surtout que c'est pas mon intention.
Vous devriez, parce que l'ennemi.
Je me bats pas contre le capitalisme.
Votre ennemi, c'est ça, en fait.
Non, je crois. Alors, on sera pas d'accord là-dessus, malgré le.
Mettez-vous bien devant le micro, s'il vous plaît.
Pardon, mais mon ennemi. D'abord, je raisonne pas en ennemi. Mon objectif, c'est de faire en sorte de faire des trucs utiles et que ça améliore la vie des gens. Vous avez pas tort sur le logement, j'entends ce que vous dites. C'est pour ça que, vous savez, le président, j'ai compris que vous deviez pas l'aimer beaucoup, mais le président, il a une phrase, moi, que je trouvais importante, c'est que, et je le vois en politique, c'est que tout se tient quand tu fais de la politique. C'est-à-dire quand tu prends une mesure sur tel sujet, souvent ça a un impact sur tel autre sujet. Tout se tient. Et donc c'est pour ça que parfois c'est difficile d'être en plateau, parce que t'as 14 secondes pour répondre à un truc, et en fait ça touche plein d'autres sujets. Donc merci déjà Alain Marchal de me laisser le temps de répondre. Vous avez pas tort sur les plateformes et Airbnb. Ce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est faciliter la vie pour loger des saisonniers, mettre en place des dispositifs d'amélioration fiscale notamment. Et, je vais vous éviter le en même temps, mais à côté, à légiférer sur les plateformes et envisager peut-être de regarder la réalité de la fiscalité et des avantages fiscaux sur les logements loués sur les plateformes. Ça, c'est au menu de la rentrée, puisque les parlementaires, c'est pas le gouvernement, les parlementaires vont déposer, ou ont déposé, je sais pas encore, une proposition de loi sur ce sujet du logement, sur les plateformes, qui va possiblement abaisser la fiscalité, les avantages fiscaux sur ces plateformes. Vous voyez, c'est les deux en même temps. C'est mieux loger les saisonniers et peut-être durcir un peu la législation sur les plateformes.
Parce qu'il y a plein de maires qui n'en veulent plus de ces plateformes et de systèmes de location.
Oui, mais il y a un truc que je vais dire aussi, puisqu'on est aux grandes gueules. On est pour, on est contre. Si les gens le font,
c'est qu'ils y trouvent un intérêt.
Bah oui. C'est qu'ils gagnent aussi un peu de sous avec. Donc, pardon de mettre le truc en plein milieu de la table, mais c'est aussi vrai. Donc, il faut trouver un juste milieu. Il y a des gens pour qui c'est un revenu supplémentaire, et notamment des petits retraités. Donc, il faut avoir les deux trucs en tête.
Vous avez vu, il y a quand même des régions françaises, même des villes, on ne parle même pas de Paris, où maintenant, les gens qui vivent et qui travaillent dans cette ville-là ne peuvent plus y habiter, parce que, ben, comme c'est touristique, ben, ils préfèrent les ceux qui ont des trucs. Et c'est rarement des petits propriétaires. Souvent, c'est quand même des consortiums ou d'autres qui ont acheté un tas d'appartements.
Ça ne m'a pas échappé.
Et donc, qui font qu'à un moment donné, vous n'avez même pas à vous loger chez
vous. Il faudrait que l'État et les mairies reprennent la main et reprennent ces logements.
À la rentrée, il y a une proposition de loi sur le logement, portée notamment par une députée finistérienne qui travaille beaucoup, Anaïs Glemmer, sur ces sujets. Donc il y aura un texte. La Bretagne est assez exemplaire en matière d'expérimentation et de mesures pour améliorer ce sujet. Ce que vous dites est très vrai, le maire de Saint-Malo, les équipes de Saint-Malo subissent ce problème, sur la côte basque aussi, c'est très juste. Donc il faut qu'on porte qu'il y ait ce texte logement, il faut que les mairies aussi puissent plus facilement identifier les logements disponibles et louer. Pour ça, avec Jean-Noël Barrot, le ministre du Numérique, on portera dans les prochaines semaines, il le portera au Parlement, la mise en place d'une application, d'une API, d'une application, d'une plateforme, pour que les communes et les mairies puissent beaucoup plus facilement identifier les logements loués sur Airbnb. Parce qu'il y a l'histoire de taxes derrière tout ça aussi. Donc ça, c'est dans les semaines qui viennent. Et dès la rentrée, le sujet sera porté au Parlement sur les plateformes de location.
Puisque depuis le début, ce qui nous tient, c'est on parle argent, pouvoir d'achat... contrat, il y a l'inflation aussi. On a eu un avril rouge, mars-avril rouge. Là, l'inflation commence à baisser sur le mois de mai. Est-ce qu'on peut avoir un été comment orange et un septembre vert? On va dire ça comme ça.
J'adore la peinture, mais je suis pas peintre.
Je fais de l'impressionnisme, vous avez vu? Je fais des petites touches.
Ouais, c'est presque du pointillisme.
Vous avez vu?
Alors, vous a pas échappé que je suis pas tombé dans le piège. En janvier, j'ai pas répondu à Mars rouge, j'ai pas répondu à écarlate, à orange ou vert. Même si j'aime beaucoup les gens qui ont exprimé ce point de vue. Moi, ce qui compte, c'est le concret. Concrètement.
Ça baisse.
Le mois dernier, dans les rayons, on était à 15%. D'accord. Concrètement, aujourd'hui, on est à 14%. Bon. Je vais vous dire la vérité. C'est pas la chute. C'est que ça arrête de monter. On est là. Ça arrête de monter. On est là. Okay. Premièrement,
mais on retrouvera pas les prix d'avant.
Cet été, vous allez voir des baisses de prix. Les renégociations pour des dizaines d'entre eux ont commencé. Cet été, sur des matières premières qui ont baissé, je vous fais pas tout le détail, le tournesol, l'huile de tournesol, le blé, l'avoine, les pâtes, les prix vont baisser pour partie dès cet été. Pour d'autres produits, ce sera plutôt à la rentrée ou début 2024, comme les distributeurs l'ont dit. Ça dépend du prix des matières premières. Le gouvernement, il a pris ses responsabilités, il a remis autour de la table les industriels en leur disant maintenant, on va réouvrir des négociations sur les 75 plus grosses marques. Donc, je sais pas si, enfin, je suis pas là pour faire de la peinture, même si j'aime beaucoup, rouge, vert, orange, je sais pas. Un, déjà, ça arrête de monter vers le rouge et l'écarlate. Deux, dès cet été, à la rentrée, ça va commencer à baisser. Ce qu'il y a de vrai, et je veux vous répondre, et je veux le dire, c'est un sujet de société, c'est que nous ne retrouverons pas une inflation à 0,5, 1%, 1% et demi. Il y a des raisons. Il y a un modèle de société derrière. Je parle de l'alimentaire, hein, faut pas confondre avec l'inflation en général. Le modèle qu'il y a derrière sur l'inflation alimentaire, c'est aussi la réalité des faits, c'est qu'on a réindustrialisé, qu'on a aujourd'hui des coûts qui sont des coûts parce que c'est produit en France, et je veux dire, c'est une très bonne chose.
D'accord, mais ça veut dire que la main-d'œuvre est plus chère en France.
Mais bien sûr, mais on peut pas d'un côté vouloir protéger nos salariés, vouloir qu'il y ait du dialogue social, vouloir qu'on mange des pommes, des poires, des tomates françaises.
Non, mais c'est bien de dire qu'on a du mal à réindustrialiser, qu'on va payer plus cher parce qu'on a un coût de la main-d'œuvre qui est plus cher.
Si, très simplement, on a fait plus 15% d'inflation alimentaire. Vous avez beaucoup d'opposition qui pataugent avec des mesures qui ne marchent pas. D'ailleurs, on le voit dans les pays européens. Ni le blocage des prix, ni la suppression de la TVA ne fonctionnent. Ce qui est important de dire, c'est que on ne va certainement pas faire moins 15%.
D'accord.
La question qui est derrière, et à dispo pour en faire une spéciale, la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on veut revenir à moins 15%? Alors, parce qu'on ne peut pas me dire « Oh, moi je suis triste pour les éleveurs laitiers parce qu'on leur paye 35 centimes le litre. » Et d'un autre côté, nous dire « On veut les premiers prix. » Parce que les premiers prix, ils viennent d'autres pays européens et bien au-delà.
Donc c'est la responsabilité du consommateur.
Est-ce que vous voulez que nos enfants, dans 5 ans, ne mangent plus que des poulets aux hormones brésiliens? C'est ça la question.
Alors attendez, excuse-moi, c'est très important. Donc Madame Grégoire, vous êtes contente hier de la mise en garde à vue, elle a été placée en garde à vue, le PDG de Casino qui a été placé en garde à vue hier pour délit d'initié et justement corruption sur les cours par rapport aux approvisionnements de sites de revente de produits alimentaires.
Deux choses.
Parce qu'il a été placé pour la période.
J'ai plutôt la parole libre.
2019,
je veux
2020.
Dire deux choses. Un,
ça correspond quand même. PDG de casino, Franprix.
Vous ne me trouverez pas.
C'est pas.
Dans l'anathème, dans la condamnation, surtout sur des affaires qui viennent de sortir. Vous savez, je suis ministre. J'ai pas à commenter.
La justice.
Et c'est très important.
Mais le problème, c'est... Excusez-moi.
C'est très important. J'ai pas à commenter la justice.
D'accord.
Et heureusement. Donc, je n'ai pas à commenter ce truc. C'est une affaire qui est en cours. Il se passera ce qui doit se passer. Point barre.
Allez, il y a une question pour
vous. Il y a beaucoup d'anathèmes, beaucoup de caricatures, beaucoup de généralités entre qu'on entend sur les plateaux, dans les médias, sur les méchants et les distributeurs, les méchants et les industriels. Moi, je suis pas là pour jouer aux gendarmes, aux voleurs, aux gentils, aux méchants. Je suis là pour que les prix baissent.
J'ai une question pour vous de la part de notre restaurateur Stéphane Manigol, qui est à Lumi aussi. Voilà, la question qui nous a envoyée par vidéo.
Salut les GG, salut les auditeurs. Bonjour Madame la Ministre. Alors en tant qu'artisan de la restauration française, nous lançons un cri d'alerte. L'usage des plats industriels et surgelés dans nos établissements est en constante augmentation. C'est une véritable gangrène. Tandis que la France perd des places dans les classements internationaux, pire, eh bien la défiance des Français maintenant grandit. Ils doutent de l'origine et de la qualité des plats. C'est insupportable. Il est grand temps d'instaurer une transparence totale sur nos cartes. Le fait maison, Madame la Ministre, ça doit être la norme, pas l'exception. Si un plat est industriel, le consommateur doit être informé. Alors ma question, elle est simple, Madame la Ministre. Aidez-nous, ou quand allez-vous nous aider à instaurer cette transparence nécessaire? Aidez-nous à regagner le cœur des Français, restaurer leur confiance et valoriser le véritable artisanat de la gastronomie française.
Alors, réponse à Stéphane, je vous donne 30 secondes puis j'aurai la question ensuite.
30 secondes.
Oui. Sur le fait maison et la transparence des cartes des restaurants.
Déjà, tout ce qui peut être fait pour améliorer la transparence au service du consommateur doit être fait. Donc, l'idée, elle se regarde. Et Stéphane Manigol le sait, il m'a fait cette proposition il y a quelques mois maintenant. On est en train d'y travailler, je vais vous dire comment. Deux, attention aussi, attention, je vous l'ai dit, pas de généralité, pas de caricature. Tout ce qui paraît hyper simple, simpliste, est bien souvent plus compliqué qu'il n'y paraît. Vous avez des produits de la mer que nos pêcheurs bretons ramènent, qui n'arrivent pas sur les tables des restaurants à Paris s'ils ne sont pas congelés. Enfin, je ne sais pas, vous êtes restaurateur, je ne le suis pas. Est-ce que parce qu'une coquille Saint-Jacques ou un bar a été congelé, ou des langoustines au Guilvinec, pour arriver à Paris, il faut forcément les condamner? Je suis pas sûr. Il y a des questions derrière ça. On a des très grands acteurs aujourd'hui et des marques que les Français connaissent très bien, qui d'ailleurs ils apprécient, qui font du surgelé, qui sont
Picard,
très compétitives.
Par exemple,
ouais. Bon, faut faire gaffe à ce type de mesures parce que vous avez derrière toute une chaîne de valeur. Ce que dit Stéphane Manigol, qui est très intéressant, c'est il faut qu'on améliore l'information aux consommateurs. Les Italiens le font, c'est ce qu'il a en tête. Quand c'est surgelé, c'est indiqué. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce
à dire
que France.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce à dire que parce que c'est surgelé, c'est de mauvaise qualité?
C'est moins bon.
Vous voyez? Donc Stéphane Manigold, merci déjà, parce que moi j'aime bien les gens qui font des propositions. Deux, cette proposition, je l'ai portée, j'en ai parlé avec le président de la République. Trois, on ouvre là, dans les jours qui viennent, on appelle ça des concertations, des échanges avec les acteurs, parce que moi je travaille avec les syndicats, avec les organisations professionnelles, avec le GNI, avec l'UMI, pour savoir ce qu'ils en pensent et comment on pourrait le faire. Donc, objection retenue, si je puis me dire, tout en étant pas juste, et au boulot. Et avant l'été, on fait des réunions de boulot avec les acteurs et Stéphane Manigol.
La question bonus, c'est vous aimez bien Madame Borne, vous voulez continuer avec Madame Borne comme Premier ministre?
Oui.
Voilà.
Aux deux. J'aime beaucoup Madame la Première ministre.
D'accord.
J'irais même un peu plus loin. Je suis fier de bosser pour elle.
D'accord.
Non, je suis loin d'être la seule.
Et elle va continuer. Elle passera l'été.
Je l'espère de tout mon cœur et tout m'indique que oui, vous savez, la meilleure façon de passer l'été, le printemps, l'automne et l'hiver, c'est de travailler. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à la Première ministre, c'est d'être une des femmes politiques les plus engagées, les plus bosseuses que je n'ai jamais rencontrées. Et vous savez, il y a une chose que j'aime chez elle, et je vais vous le dire, c'est qu'on est dans une société très médiatique, très de TikTok, de Switch, faut se montrer, faut s'Instagrammer, faut... Elle est pudique et c'est difficile d'être pudique dans un univers hyper informationnel et moi j'aime ça.
Et tout va bien avec le président.
Vous savez, moi je ne suis qu'une ministre déléguée et je ne suis pas la petite souris entre
les deux. Je croyais que vous étiez grande gueule et franche.
On peut être petite souris, grande gueule, hein, j'en connais.
Oui. Merci Madame Olivia Grégoire d'être passée par les GG.